Quoi ?
À plus s'est enfui ? Ton puissant n'a pas tenu ?
Ce sont les dieux égyptiens. Ils s'en vont, ils s'enfuient aussi.
Mais le Seigneur l'a culbuté de belle façon. Il a chancelé, le voilà par terre. Alors, on se dit l'un à l'autre, debout. Retournons à notre peuple et à notre terre natale, loin de l'épée qui dévaste. Donnez ce nom à Pharaon ? Du bruit, mais manque-t-il l'occasion ?
Mais il manque l'occasion.
Comment on l'appelle, le pharaon ?
Il fait du bruit ?
Il ne peut pas résister. Du bruit, mais il manque l'occasion. Aussi vrai que je vis, oracle du roi dont le nom est le Seigneur Sabaoth,
quelqu'un va venir pareil au Tabor parmi les monts,
au Carmel surplombant la mer.
On va vous comparer Nabucodonosor à une grande montagne. La montagne du Tabor est au-dessus
de la plaine d'Esdrelon, ou bien le Carmel qui domine la mer, toute la l'échine du Carmel.
Prépare ton paquet d'exilés, fille de l'Égypte, si bien installée. On va aussi transporter les Égyptiens en exil, bien entendu, puisque c'est le système habituel. Prépare ton paquet d'exilés, fille de l'Égypte. Égypte,
considérée comme une fille, une femme.
Si bien installée, Nof va être réduite en désert, dévastée, vidée d'habitants. L'Égypte était une génisse magnifique.
Une autre comparaison.
Une génisse magnifique.
Pourquoi ? Des vaches
qui pèsent sur le bord du Nil. Ce sont des symboles qui sont utilisés. L'Égypte était une génisse magnifique.
Un temps venu du nord s'est posé sur elle. Ses mercenaires aussi chez elle ressemblaient à des voues à l'engrais. Eux aussi tournent le talon. Ils s'enfuient tous ensemble.
Ils ne peuvent tenir, car il arrive sur eux le jour de leur malheur, le temps d'être visités.
C'est Monsieur Nabucodonosor qui s'amène avec son armée. Écoutez, on dirait un serpent qui siffle. Oui, ils viennent en masse se jeter sur elle avec des haches, tels des bûcherons. Ils abattent sa forêt, oracle du Seigneur. Oui, on ne peut les compter. Ils passent en quantité
de sauterelles.
Ils sont innombrables. Elle est couverte de honte.
La fille de l'Égypte, oui, la fille qui est l'Égypte. Livrée aux mains d'un peuple du Nord. Ce sont des poèmes, ce sont des épopées. Il faut les prendre comme telles.
Et alors, une petite explication.
Le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, a déclaré « Voici que je vais visiter Amon de No, Héliopolis. » Raison, c'est on,
Héliopolis, c'est Thèbes. Non, c'est Thèbes. Le pharaon et ceux qui placent en lui leur confiance. Je les livrerai aux mains de ceux qui en veulent à leur vie, aux mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, aux mains de ses serviteurs. On vient de vous traduire les deux grands poèmes que l'on a vus. Mais plus tard, l'Égypte sera de nouveau habitée comme au vieux temps, oracle du Seigneur. Tous ces massacres, toutes ces dévastations, elles n'ont qu'un temps. Elles ne sont jamais définitives. Ça, c'est le lot de l'humanité. Notre temps humain est limité. Il n'est pas tout. Mais toi ne crains pas, et c'est une reprise du chapitre 30, mais toi ne crains pas, mon serviteur Jacob, ne sois pas terrifié, Israël. Quelle est la figure que fait Israël à travers tout cela ? Il, comme dans un match de tennis, là, tourne la tête depuis la Babylonie jusqu'à l'Égypte. Et qui ne sait plus très bien à qui se fier. Mais toi ne crains pas, mon serviteur Jacob, ne sois pas terrifié, Israël, car me voici pour te délivrer des terres lointaines et tes descendants du pays de leur captivité. Jacob retrouvera, de nouveau, le calme. Il vivra paisible, sans personne qui l'inquiète. Toi, sois sans crainte, mon serviteur Jacob, oracle du Seigneur, car je suis avec toi. Je vais en finir avec toutes les nations où je t'ai dispersé. Avec toi, je ne veux pas en finir, mais te châtier selon le droit, ne te laissant pas impuni. Donc quand le Seigneur ne tarde pas à châtier un peuple, c'est une marque de grande faveur. Vous trouvez ça dans le livre de Judith. Voilà donc des poèmes à propos de Carchemish et à propos de la victoire de Nabuchodonosor sur l'Égypte. Tout ça pour vous dire, vous savez, l'Égypte sera finalement dévastée, elle est battue à Carchemish, elle sera dévastée par Nabuchodonosor, à charge évidemment de dévaster aussi Nabuchodonosor, mais ça va venir après. D'abord l'Égypte. Puis les Philistins maintenant. Les Philistins étaient des gens qui dépendaient beaucoup de l'Égypte. On comprend bien pourquoi.
Ils sont les plus proches. Il suffisait de longer la côte et on arrivait aux villes philistines. Vous connaissez les villes philistines qui sont Gad, qui sont Ashkelon, Ashdod, Gaza évidemment, et Ekron. Les cinq villes philistines. Donc qui formaient un petit royaume. Ce royaume qui avait donné du fil à retordre à l'époque de Samuel et surtout à l'époque de David. Mais c'est en allant chez eux, évidemment, chez les Philistins, que David avait appris l'art de la guerre, puis il s'était retourné contre eux. Donc, Philistins veut dire les amis de l'Égypte, et des gens dangereux, parce qu'ils prennent petit à petit le pays, ils montent vers la Shephelah. Ils sont dans la plaine, mais ils montent vers la Shephelah, c'est-à-dire les coteaux entre la plaine et les montagnes de Juda, et ils peuvent toujours attaquer Jérusalem. Parole du Seigneur qui fut adressée au prophète Jérémie sur les Philistins, avant que Pharaon ne prît Gaza. Ainsi parle le Seigneur. C'est aussi une chose étrange, c'est qu'à travers toute l'histoire d'Israël, vous avez toujours les mêmes points qui ont fait difficulté. Que ce soit Gaza, que ce soit Hébron, que ce soit Naplouse, c'est-à-dire Sichem, autrefois Sichem, ou bien alors Ramallah, au-dessus de Jérusalem, sont toujours les mêmes points. On dirait qu'il y a une tradition. Mais aussi ce sont des points forts, des points où il y avait des forteresses. Parole du Seigneur qui fut adressée à Jérémie sur les Philistins, avant que Pharaon ne prît Gaza, ainsi parle le Seigneur, voici des eaux, autre comparaison encore, les eaux qui montent du nord. Comme s'il y avait une grande invasion, l'image vient aussi chez Isaïe. Voici des eaux qui montent du nord, c'est un fleuve débordant. On sait bien justement que l'Euphrate, c'est la richesse du pays, le Tigre et l'Euphrate. Les eaux qui montent du nord, c'est un fleuve débordant qui submerge le pays, et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants, les hommes crient, ils poussent des hurlements, tous les habitants du pays, au martèlement des sabots de ses chevaux, au vacarme de ses chars, au fracas de ses roues. Et voilà que l'inondation est devenue une inondation de l'armée. Les chevaux et les chars. Les pères ne regardent plus leurs enfants. Les mains leur retombent. À cause de ce jour qui est arrivé, nous retrouvons Sophonie, le jour du Seigneur. À cause de ce jour qui est arrivé, où tous les Philistins seront anéantis, où Tyr et Sidon verront abattre jusqu'à leurs derniers auxiliaires. Tyr et Sidon étaient deux villes importantes qui étaient sur la côte, encore maintenant, Tyr et Sidon. Ce sont les grandes villes commerçantes. Donc, Tyr et Sidon, c'est le commerce avec la Grèce et avec les îles. Tous les Philistins seront anéantis, où Tyr et Sidon verront abattre jusqu'à leurs derniers os qu'il y ait. Oui, le Seigneur anéantit les Philistins, le reste de l'île de Carthor, c'est-à-dire la Chypre, à Gaza, la Tonsue, silence sur Ashkelon, Ashdod, reste des Anakim. Les Anakim, ce sont les géants dont avaient peur les éclaireurs à l'époque du désert, de Josué. Il avait envoyé des éclaireurs, ils ont dit, ça va pas, on va être arrêté, c'est un pays de géants, tout ça. Sinon, Ashdod, reste des Anakim, c'est ce qui reste des géants. Jusque à quand vas-tu te taillader? On se tailladait quand on était dans le danger pour apitoyer les vieux. On fait encore comme ça, hein, vous avez encore. En Inde, par exemple, et dans l'islam, dans certaines régions de l'islam, on fait encore cela. Ah, épée du Seigneur, jusque à quand seras-tu sans repos? Rentre en ton fourreau, arrête, calme-toi. Comment se reposerait-elle quand le Seigneur lui a donné des ordres? Ashkelon et le rivage de la mer, voilà les buts fixés. Et effectivement, de Philistie, il ne reste plus rien, sinon une tradition de révolte. Bon, donc l'Égypte, esclavage. Hein? Les Philistins, comme dit Récidon, le commerce. Et aussi, hein, les gens qui grignotent petit à petit la possession de Juda. Moab. Ah. Moab, c'est encore autre chose. Moab, ce sont les gens de Transjordanie qui ont de grands troupeaux, qui ont de grandes richesses, mais qui, eux aussi, de façon sournoise, veulent prendre le pays. Parce que leur pays est désertique, hein. Les monts de Moab, les plaines de Moab un peu moins, mais les monts de Moab sont désertiques, c'est là où Moïse est mort. Mais, quand ils voient Jéricho juste en face, hein, de Moab, on voit bien toute la plaine, avec toute sa verdure et ses palmiers, hein, on désire prendre le pays, normal. Sur Moab, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo. Il y a un jeu de mots avec Nebo. Le mont Nebo, c'est le mont le plus important de Moab, là où Moïse est mort. Donc c'est un souvenir de la mort de Moïse. Mais Nebo, c'est aussi un dieu mésopotamien, un dieu des Assyriens. Malheur à Nebo, car elle est saccagée. Donc il y avait une petite ville là dont on a exhumé quelques ruines. Kiriataïm est prise, c'est la ville double, Kiriataïm, quand vous voyez des Aïm, Yerushalayim, hein, il y a quelque chose de double, c'est un duel. Honte et terreur sur la citadelle, elle n'est plus la gloire de Moab. À Heshbon, autre ville où il y avait des piscines, à Heshbon, on a machiné son malheur. Allons, supprimons-la d'entre les nations. Toi aussi, Madmen ou Madmena, une petite ville de Moab, tu seras anéanti. L'épée te serre de près. Écoutez, des clameurs viennent des Abarim. C'est une plaine, les Abarim. Mais le mot n'est pas tout à fait clair parce qu'il n'est pas le même dans les traductions et dans le texte hébraïque. Dévastation, immense désastre. Moab est terrassé. Annonce-t-on un grand cri jusqu'à Tsoar? Ah, la montée de l'Ukrit. Oh, on la monte en pleurant. Ah, la descente de Héronaïm. On entend des cris de détresse. Fuyez, sauvez votre vie. Imitez l'onagre dans le désert. Oui, puisque tes filles et tes forteresses, tu seras prise toi aussi. Kemosh, le dieu de Moab, Kemosh partira en captivité avec ses prêtres et ses grands tous ensemble. Le dévastateur va venir contre toute ville, aucune ne réchappera, la vallée sera ravagée, la vallée et le fleuve de l'Arnon, surtout, qui traverse le pays. La vallée sera ravagée, le plateau saccagé, le Seigneur l'a déclaré. Si vous lisez les oracles sur Moab chez Isaïe, c'est le même son de cloche. On raconte à peu près la même chose. Ce sont des clichés qui reviennent. Ce sont des poésies anciennes où d'autres bardes, d'autres poètes de cour ont fait des variantes. Donnez un tombeau à Moab, puisqu'il est à fond dévasté. Ces villes sont réduites en désert, toujours les mêmes poncifs, nul n'y habite plus. Maudit celui qui fait mollement le travail du Seigneur, maudit qui prive de sang son épée. Une petite addition. Tranquille était Moab depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie, n'ayant jamais été transvasé. C'est comme du vin qui repose, et la lie qui se dépose, donc le vin est bon. Il reposait sur sa lie, n'ayant jamais été transvasé, n'étant jamais parti en captivité. Aussi, son goût lui restait et son arôme était intact. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je lui enverrai des transvaseurs qui le transvaseront. Ils videront ses cruches et briseront ses amphores. Alors Moab rougira de Kémosh, le faux dieu, comme la maison d'Israël a rougi de Bethel, en qui elle se confia. Elle avait fait un sanctuaire concurrent du sanctuaire de Jérusalem. Donc, encore une autre comparaison, on compare Moab à du vin, qui est tout à fait décanté, et on ne l'a jamais transvasé, maintenant on le transvase, c'est-à-dire qu'on déporte sa population, qu'on a compris. Comment pouvons-nous dire, nous sommes des héros, des vrais combattants. Le dévastateur de Moab est monté contre lui. Le dévastateur de Moab, c'est toujours le fameux Nabucodonosor. Le dévastateur de Moab est monté contre lui. L'élite de sa jeunesse va descendre à la boucherie. La ruine de Moab est proche. Son malheur se précipite. Plaignez-le, vous tous, ses voisins, vous tous qui connaissiez son nom. Dites quoi? Il est brisé, ce bâton puissant. Moab avait une bonne armée. Ce sceptre magnifique, descends de ta gloire, Moab. Assieds-toi dans l'ordure, fille de Dibon, autre ville, si bien installée. Le dévastateur de Moab est monté contre toi, il a abattu tes forteresses. Poste-toi sur la route et guette, population d'Aroer, encore. On passe par toutes ces villes quand on fait la Transjordanie. Interroge fuyard et rescapé. Demande, qu'est-il arrivé? Moab est honteux de son désastre. Gémissez, criez, publiez sur l'Arnon que Moab est dévasté. Et le jugement est venu contre le pays du plateau. Et on va vous citer les principales villes de l'époque. C'est intéressant, parce qu'on peut repérer des villes qui étaient florissantes alors, et qu'on a fouillé d'ailleurs aujourd'hui. Contre Holon, Yahtza, Mefa'at, Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiriataim, Bet Gamoul, Bet Meon, Keriot, Potsra, et contre toutes les villes du pays de Moab, les lointaines comme les proches. La corne signifie toujours la puissance, la force. Comme, c'est la force des animaux à cornes. La corne de Moab est abattue, son bras brisé. Enivrez-le, puisqu'on a parlé de vin, et effectivement, il paraît qu'autrefois il y avait des vignes là-bas. Enivrez-le, car il s'est dressé contre le Seigneur. Moab se roulera dans sa vomissure et deviendra lui aussi une risée. Israël n'était-il pas pour toi une risée? A-t-il été surpris parmi les voleurs, que tu hoches la tête chaque fois que tu parles de lui? Il y avait une concurrence entre Israël et Moab.
Abandonnez les villes. Fixez-vous dans les rochers, habitants de Moab. Imitez le pigeon qui fait son nid aux parois d'une gorge béante. Nous avons appris l'orgueil de Moab, un orgueil excessif. Voilà ce qu'on reproche à Moab, son orgueil. Quel superbe, quel orgueil, quelle fatuité, quel cœur altier. Je connais bien sa présomption, oracle du Seigneur, son bavardage sans consistance, ses actes sans consistance. Aussi, je veux me lamenter sur Moab tout entier, élever mon cri, gémir sur les gens de Kirkheres, plus que sur Yazer, je veux pleurer sur toi, vignoble de Sitma. Tes rejets s'étendaient au-delà de la mer, atteignaient jusqu'à Yazer. Sur ta vengeance et ta récolte est tombé le dévastateur. Fini la joie et l'allégresse dans le pays de Moab. Plus de vin dans les cuves. Le fouleur ne foulera plus. Le cri de joie ne résonne plus. Donc ce sont des lamentations sur les différentes villes étrangères, mais des villes concurrentes d'Israël, de Jérusalem, de Juda. Les hurlements de Heshbon et Eleale vont jusqu'au Seigneur. On crie de Tsoar, Tsoar c'est au sud de la mer Morte, on crie de Tsoar jusqu'à Horonaïm et à Eglat Shelishiya, le tiers de la vache. Car les eaux de Nimrim, à leur tour, deviennent un lieu désolé. Et je rendrai impossible à Moab, oracle du Seigneur, qu'un homme fasse une offrande sur les hauts lieux et encense son Dieu. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus d'endroit pour les faux dieux. Tout devient désert. Aussi, mon cœur ulule sur Moab à la manière des flûtes. Mon cœur ulule sur les gens de Kirkheres, à la manière des flûtes. Il est donc perdu, le trésor amassé. Oui, toute tête est rasée, toute barbe coupée, à tour de main. Il y a des incisions sur tous les reins. Et il y a des incisions. À toutes les mains, il y a des incisions, pardon, sur tous les reins, à sac. C'est-à-dire, on fait le deuil partout. Sur toutes les terrasses de Moab et sur ses places, ce n'est qu'une lamentation. Parce que j'ai brisé Moab comme un vase de rebut, vous vous rappelez, hein, chez le potier, oracle du Seigneur. Quoi? Il a été brisé? Quoi? Moab, honteusement, a tourné le dos? Quoi? Moab est devenu une risée, un objet d'épouvante pour tous ses voisins? Car ainsi parle le Seigneur. Voici que plane comme un aigle qui va déployer ses ailes sur Moab. L'aigle aussi, c'est le prédateur. Donc le prédateur ici, hein, c'est Nabucodonosor. Mais l'aigle était aussi l'animal protecteur du pharaon. Sur les trônes du pharaon, vous avez l'image d'un aigle qui domine la tête du pharaon. Les villes sont prises, les forteresses enlevées. Et le cœur des guerriers de Moab sera ce jour-là pareil au cœur d'une femme en travail. Moab exterminé cesse d'être un peuple pour s'être dressé contre le Seigneur. Terreur, trou, traquenard, ça c'est recopié de chez Isaïe. Terreur, trou et traquenard, pour toi, habitant de Moab, oracle du Seigneur, qui fit loin de la terreur tombera dans le trou. Et qui remontera du trou sera pris au traquenard. Autrement dit, il n'y a pas de recours. Oui, je vais amener ces fléaux sur Moab l'année de leur visite. Oracle du Seigneur. À l'abri de Heshbon, on fait halte. Les fuyards à bout de force. Pour vous dire que les gens d'Israël avaient commencé à fuir un petit peu partout. Et ce qu'on veut dire aussi, hein, n'allez pas un peu partout, contentez-vous de Babylone, vous serez protégés.
Oui, je vais amener ces fléaux sur Moab l'année de leur visite oracle du Seigneur. À l'abri de Heshbon, on fait halte les fuyards à bout de force. Mais un feu est sorti de Heshbon, une flamme du palais de Sihon, qui a dévoré les temples de Moab et le crâne d'une engeance de tumulte. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh, car tes fils sont emportés en exil et tes filles en captivité. Mais je changerai le sort de Moab dans l'avenir, oracle du Seigneur. On a chaque fois voulu mettre, à la fin, une petite promesse de rétablissement. Jusqu'ici, le jugement de Moab.
C'est quand l'artée est revenue...
Pardon?
C'est quand l'artée est revenue que Bose a marié une Moabite, Ruth.
Ah, Ruth, c'est un tout autre moment, c'est beaucoup avant. C'est à l'époque des juges, comme on le dit. Donc c'est déjà avant la royauté en Israël. Donc c'est une ancienne... C'est placé là, en tout cas, parce que là, l'épopée de Ruth, la Moabite, nous dirions aujourd'hui, c'est une nouvelle ou un petit roman. Mais un petit roman qui veut montrer que même les étrangers, même les gens de Moab, qui sont des gens orgueilleux, peuvent se soumettre à la réalité d'Israël et je dirais, s'humilier devant Israël. Et Ruth, justement, manifeste une étrangère, hein, Moab l'étranger, qui devient non pas seulement alliée d'Israël, mais qui est vraiment intégrée en Israël jusqu'à devenir ancêtre de David. Ancêtre de David. Donc ouais, c'est une toute autre époque. Mais c'est intéressant parce que les symboles jouent. Le symbole de Moab, qui est l'orgueil, devient chez Ruth l'humilité et l'intégration. Mais c'est intéressant, parce que là nous avons des passerelles entre les livres.
Moab, ça ne veut pas dire rouge.
Pardon ?
Moab, ça ne veut pas dire rouge.
Non, c'est Edom.
Je veux dire rouge. Parce qu'on parle de Moab, qui rougit et puis de la comparaison avec le vin.
Non, ce n'est pas du tout ça, c'est l'orgueil. Non, c'est l'orgueil. Edom, nous allons juste le voir. Il vient un tout petit peu après. Nous nous arrêterons là, d'ailleurs. Edom, mais nous allons venir tout de suite. Je prends d'abord Ammon. Ammon, c'est Amman, hein, aujourd'hui. C'est la capitale de Transjordanie. Donc c'est la ville sur la montagne. Et ça fait suite à Moab. Moab est plus au sud et Ammon plus au nord. Sur les fils d'Ammon, sur le peuple. Ainsi parle le Seigneur, Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Pourquoi Milcom a-t-il hérité de Gad et son peuple en occupe-t-il les villes? Milcom, c'est le dieu de nouveau, comme Kémosh était le dieu de Moab. Eh bien, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je ferai résonner pour Rabba des Ammonites, Rabba, la nombreuse, c'est-à-dire la capitale, Rabba des Ammonites, le cri de guerre. Elle deviendra une ruine désolée, ses filles seront incendiées. Les filles, ce sont les villages tout autour. Alors Israël spoliera ses spoliateurs, déclare le Seigneur. Gémis, Heshbon, le dévastateur est monté. Hurlez, filles de Rabba, revêtez-vous de sacs et élevez la lamentation. Allez, couverts d'incisions, car Milcom va partir en exil. Votre Dieu, il s'en va. Avec ses prêtres et ses grands, tous ensemble. Oui, quoi ? Tu te glorifies de ta vallée, fille insouciante. Tu te fies à tes réserves. Tu dis, qui osera venir contre moi? Voici, je vais amener contre toi la terreur de tous côtés. Vous serez chassés, chacun devant soi, et personne pour rassembler les fuyards. Et puis on a ajouté, mais ensuite, je changerai le sort des fils d'Ammon, oracle du Seigneur, pour vous montrer, le Seigneur ne veut pas la mort. Et puis nous arrivons à Edom. Edom, ça c'est le profiteur. Profiteur par excellence. Il ne manque pas une occasion pour aller flouer Israël ou pour aller prendre une partie de son territoire. Edom, le mot Edom veut dire rouge. Mais il veut dire aussi Adam, la Adam. C'est l'homme. Adam, Et Dam veut dire le sang. Et donc on va jouer Dam, le sang. Edom, rouge. Adam, l'homme. Adama, la terre, le sol. Et ils aiment bien, les prophètes, qui sont des poètes, aiment bien jouer sur les mots. Edom, c'est aussi, donc c'est le profiteur, mais c'est aussi le signe de tout homme. C'est le Adam. C'est aussi le sang versé. Vous voyez ? Nous n'avons pas l'habitude, nous autres, hein, de... Quand nous utilisons un terme, nous n'avons pas l'habitude de développer toute la symbolique. Eux, ils ne la développent même plus, mais ils font des allusions. Mais le vin, là, il ne faisait pas allusion à la couleur, mais il faisait allusion aux vignes, à ce qui faisait la richesse de Moab. Mais si vous regardez, quand vous passez en avion au-dessus du territoire, Edom, Petra se trouve en Edom, vous voyez que les rochers deviennent rouges. Donc Edom est pris de ces rochers rouges d'abord. Et c'est d'ailleurs les montagnes d'Edom qui donnent aussi au soleil couchant, hein, la couleur rouge à la mer, au bras de mer. Sur Edom, et je termine par là, ainsi parle le Seigneur des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? Le conseil a-t-il disparu chez les habiles? Leur sagesse a-t-elle ranci? Les Édomites étaient des hommes, hein, du désert, du début du désert, qui étaient des fins limiers, des gens sages. Fuyez, tournez le dos, cachez-vous bien, habitants de Dédan, de nouveau les villes, car j'amène sur Ésaü sa ruine. C'était le territoire de Séhir, c'est-à-dire le territoire donné à Ésaü, le nomade. Le temps où je le visite, si des vendanges viennent chez toi, ils ne laisseront rien à grappiller. Si ce sont des voleurs nocturnes, ils saccageront tous leurs comptants. Car c'est moi qui fouille Ésaü. Je mets à nu ses cachettes, qu'il ne puisse plus se dissimuler. Sa race est détruite, elle n'est plus. Par parenthèse encore, si vous avez vu le film de Lawrence d'Arabie, la plupart des vues du désert ont été prises justement sur le territoire d'Edom, entre Edom et Aqaba. Sa race est détruite, elle n'est plus. De ses voisins, pas un qui dise, laisse tes orphelins, je les ferai vivre, que tes veuves trouvent en moi leur appui. Car ainsi parle le Seigneur, vois ceux qui n'auraient pas dû boire la coupe, sont obligés de la boire, et toi tu resterais impuni. Tu ne resterais pas impuni, mais il te faudra boire. Car j'en ai fait le serment par moi-même, oracle du Seigneur, Botsra, il y a deux Botsra, il y a un Botsra qui se trouve au nord, en Syrie, et un Botsra qui se trouve au sud, près d'Aqaba. Botsra deviendra une stupéfaction et une honte, un désert, une malédiction, toutes ces villes seront réduites en ruines éternelles. J'ai reçu du Seigneur un message. Un héros était dépêché parmi les nations. Rassemblez-vous, marchez contre ce peuple, debout pour le combat. Car vois, je te rends petit parmi les peuples, méprisé parmi les hommes. Cela t'a égaré de répandre l'effroi, de t'exalter en ton cœur, toi qui habites au creux du rocher et t'accroches aux plus hautes cimes. Allusion à Petra. Quand tu hausserais ton nid comme l'aigle, je t'en précipiterai, oracle du Seigneur. Edom, un petit refrain, deviendra une stupéfaction. Tous ceux qui passeront auprès, stupéfaits, siffleront à la vue de toutes ces blessures. Comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre et des cités voisines, déclare le Seigneur, personne n'y habitera, n'y habitera plus. Aucun humain n'y fera plus de séjour. Et Dom, un territoire sans ordre. Vois, tel un lion qui monte des fourrés du Jourdain, il y en avait autrefois, vers un pâturage toujours vert, ainsi en un clin d'œil, je les ferai déguerpir de là, pour y établir qui me plaira. Qui en effet est mon égal? Qui pourrait m'assigner en justice? Quel est donc le pasteur capable de me tenir tête? Aussi apprenez le dessein que le Seigneur a formé sur Édom, et le plan qu'il a résolu sur les habitants de Théman. Oui, même les plus chétives brebis seront traînées, à leur vue leur pacage frissonnera d'épouvante, au fracas de leur chute, la terre tremble, l'écho en retentit jusqu'à la mer des roseaux. La mer des roseaux, hein, qui est ce que nous appelons la mer rouge. Voici que monte et plane comme un aigle qui va déployer ses ailes sur Botsra, et le cœur des guerriers d'Édom sera ce jour-là pareil au cœur d'une femme en travail. Voilà. Il s'agissait des ennemis de l'Ouest, les Philistins, puis des ennemis de l'Est, Moab, Ammon et Édom. Moab qui se trouve à mi-chemin, Édom tout à fait au sud et Ammon davantage au nord, en face de Galaad.
Et tu faisais une petite carte.
Oui, oui, attends, je vais les mettre. Il n'y a rien de plus simple que de faire une carte d'Israël. Je vais faire ça. Et la mer morte, c'est tout. Alors vous avez Galaad ici, puis vous avez Ammon, puis Moab, et puis Édom. Là, la mer est un peu plus haut. Je l'ai fait un peu trop bas. C'est un peu plus. Que Moab confine aussi à la mer morte. Moab et alors Édom. Et Édom, évidemment, se prolonge beaucoup plus bas. Donc ça, c'est la Transjordanie. Et puis, au-dessus de Galaad, vous avez le Bashan. Et au-dessus du Bashan, vous avez le Golan.
Et les Philistins.
Pardon?
Et les Philistins.
Les Philistins, ici. Et alors, Tyr et Sidon, ici.
Descendaient en deux colonnes.
Attends, je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire.
Ils descendaient de chaque côté du Jourdain.
Oui, oui, oui. Mais alors, vous avez la Galilée, puis la Samarie. Oui, la Samarie est plus grande, celle ici. La Samarie. Et puis vous avez Juda. Et donc, Jérusalem se trouvant ici, Juda c'est un tout petit territoire. C'est vraiment tout petit. Mais tous ses voisins ont toujours essayé de grignoter d'abord la Samarie, la Galilée et le territoire de Juda. Mais ici, il est réduit à rien, c'est simplement. Son importance vient de son passé. Et puis, alors ici, vous avez l'Égypte, alors. Et donc, ceci est vraiment le passage obligé pour venir du nord. Hein, vous avez la Syrie et puis la Mésopotamie, comme cela. Voilà.
Merci.
Merci.
Chaleur aidant, je vous aide. Laisse-vous reposer.